Tommy Williams a rejoint notre heureuse petite famille de Shawshank en novembre 1962. Sachant qu'il était né dans le Massachusetts, Tommy n'en tirait aucune gloire. À l'âge de 27 ans, il avait fait toutes les prisons de la Nouvelle-Angleterre. C'était un voleur professionnel et, vous vous en doutez, je trouvais qu'il aurait dû choisir une autre carrière. Il était marié et sa femme venait le voir chaque semaine. Elle se disait que les choses pourraient aller mieux pour Tommy et conséquemment mieux pour elle-même et leur fils de 3 ans s'il passait son baccalauréat. Elle réussit à le persuader et il se mit à venir régulièrement à la bibliothèque. Pour Andy, c'était de la routine. Il lui a fait passer une série de tests de niveau. Tommy n'aurait qu'à revoir les matières qu'il avait apprises au lycée, pas grand-chose, et potasser le reste. Andy l'a aussi inscrit à une série de cours par correspondance sur les matières qu'il n'avait pas comprises ou qu'il n'avait jamais abordées du fait d'avoir quitté l'école. Il n'a probablement pas été le meilleur élève qu'Andy a poussé à sauter les obstacles, et je ne sais pas s'il a jamais passé son bac, mais cela ne rentre pas dans cette histoire. L'important, c'est qu'il en est venu à se prendre d'une grande affection pour Andy, comme faisaient la plupart des gens au bout d'un certain temps. Tommy, une ou deux fois, lui a demandé « Qu'est-ce qu'un type intelligent comme toi fabrique en tôle ?» équivalent local de « Qu'est-ce qu'une fille bien comme vous fait dans un tel endroit ?» Mais Andy n'était pas du genre à lui répondre. Il se contentait de sourire et détournait la conversation. Tout naturellement, Tommy s'est adressé ailleurs, et quand il a su la vérité, je crois qu'il a reçu le plus grand choc de sa courte vie. Celui qui lui a répondu était son coéquipier sur la repasseuse plieuse à vapeur. Les détenus l'appellent l'écraseuse, car c'est exactement ce qu'elle vous fait si, par distraction, vous laissez votre indigne personne se faire prendre. L'équipier, c'était Charlie Lathrop, qui était là depuis 12 ans pour meurtre. Il a pris grand plaisir à raconter les détails de l'affaire Dufresne à Tommy. Cela brisait la monotonie de leurs tâches. Ôter les draps fraîchement repassés de la machine et les poser dans un panier. Il en arrivait au jury qui attendait d'avoir déjeuné pour prononcer son verdict quand un coup de sifflet a signalé un incident et l'écraseuse s'est arrêtée en grinçant. À l'autre bout, on y enfournait des draps propres venant de la clinique Elliott et la machine les recrachait secs et repassait toutes les 5 secondes. Il devait les prendre, les plier et les poser à plat dans un chariot déjà couvert par une nouvelle feuille de papier d'emballage. Mais Tommy Williams était debout, les yeux fixés sur Charlie, bouche bée, le menton en chute libre, au milieu d'un amoncellement de draps sortis tout blancs de la machine et désormais en train d'absorber la boue répandue sur le sol. Et il n'en manque pas dans une blanchisserie industrielle. Alors, le crabe en chef de la journée, Homer Jessup, est arrivé au pas de course, hurlant comme une bête, la matraque brandie. Tommy n'a fait aucune attention à lui. Il s'est adressé à Charlie comme si Homer, qui ne se souvenait plus du nombre de crânes qu'il avait fracassés, n'était même pas là. « Comment s'appelait ce prof de golf déjà ?»«
Quentin », a répondu Charlie,
si troublé qu'il ne savait plus où il était. Plus tard, il a dit que le gosse était pâle comme un drapeau blanc.
« Glenn Quentin, je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas... »«
Alors ça !»
a hurlé Homer Jessup, le cou rouge comme une crête de coq.
« Fous-moi ces draps dans l'eau froide! Fais vite! Par Dieu, tu... »«
Glenn Quentin? Oh mon Dieu !»
a dit Tommy. Et c'est tout ce qu'il a pu dire car Jessup, le moins pacifique des hommes, lui avait abattu sa matraque derrière l'oreille. Il est tombé si durement qu'il s'est cassé 3 dents de devant. Au réveil, il s'est retrouvé au mitard pour une semaine, dans un des wagons de Norton, au pain et au chien. Plus une mauvaise note sur son dossier. C'était début février 1963, et en sortant du mitard, Tommy Williams est allé voir 6 ou 7 vieux prisonniers qui lui ont raconté à peu près la même histoire. Je le sais, j'en faisais partie. Mais quand je lui ai demandé pourquoi il voulait le savoir, il s'est refermé comme une huître. Alors un jour, il est allé à la bibliothèque et a déballé un sacré paquet de renseignements devant Andy, lequel, pour la première et la dernière fois, du moins depuis qu'il était venu me demander le poster de Rita Hayworth, comme un gosse qui achète son premier paquet de capotes, a perdu son calme. Et cette fois, à fond les balais. Je l'ai vu un peu plus tard, le même jour. Il avait l'air d'un type qui a marché sur le mauvais bout d'un râteau et s'en est ramassé un maus en plein front. Ses mains tremblaient. Quand je lui ai parlé, il n'a pas répondu. Le jour même, il est allé voir Billy Henlon, le surveillant-chef, et il a eu rendez-vous avec Norton pour le lendemain. Il m'a dit plus tard qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait écouté gémir le vent froid de l'hiver, regardé la ronde incessante des projecteurs qui étiraient leurs ombres mouvantes sur les murs en ciment de cette cage qui était sa seule maison depuis la présidence de Truman, et il avait essayé de tout démêler dans sa tête. D'après lui, c'était comme si Tommy lui avait donné une clé pour ouvrir la cage à l'arrière de sa tête, une cage ressemblant à sa cellule. Mais au lieu d'un homme, c'était un tigre qu'il y avait dans la cage. Et ce tigre s'appelait Espoir. Williams avait trouvé la clé pour ouvrir la cage. Le tigre était sorti, bon gré mal gré, et parcourait son esprit en tous sens. Tommy Williams, 4 ans plus tôt, avait été arrêté à Long Island au volant d'une voiture volée pleine de marchandises volées. Il avait dénoncé son complice, le DA avait joué le jeu et sa peine avait diminué d'autant. 2 à 4 ans, y compris la préventive. 11 mois après sa condamnation, son compagnon de cellule avait reçu son billet de sortie, et Tommy avait hérité d'un nouveau, un nommé Elwood Blatch. Blatch était tombé pour vol à main armée. Il avait 6 à 12 ans à tirer.
« Je n'ai jamais vu un type aussi nerveux », m'a dit Tommy. « Un mec comme ça ne devrait jamais faire un casse, surtout armé. Au moindre petit bruit, il sautait en l'air et retombait en tirant, probablement. »
Un soir, il m'a presque étranglé parce qu'au bout du couloir, un type cognait sur les barreaux avec une tasse en fer blanc. J'ai fait 7 mois avec lui, jusqu'à ce qu'il me laisse partir. J'avais la préventive et les réductions en moins, tu piges.
Je peux pas dire qu'on a bavardé, vois-tu, parce qu'il ne s'agissait pas vraiment de conversation avec El Blatch. Lui, il te parlait. Il parlait tout le temps, sans arrêt. Si t'essayais de placer un mot, il brandissait le poing en roulant des yeux. J'avais le frisson chaque fois qu'il faisait ça. Grand et gros il était, presque chauve, avec des yeux verts enfoncés tout au fond des orbites. Jésus, j'espère ne jamais le revoir. Tous les soirs, c'était comme s'il se saoulait de paroles. Où il avait grandi, les orphelinats dont il s'était sauvé, les boulots qu'il avait faits, les femmes qu'il avait baisées, les parties de crapes qu'il avait nettoyées. Je me contentais de le laisser dégoiser. Mon visage ne vaut pas grand-chose, tu sais, mais j'avais pas envie qu'il me l'arrange à sa façon. D'après lui, il avait cassé peut-être 200 baraques. C'était difficile à croire d'un type qui s'envolait comme une fusée chaque fois qu'un gars pétait un peu fort, mais il jurait que c'était vrai. Bon, écoute-moi, Red. Je sais qu'on peut faire semblant de savoir quand on vient d'apprendre quelque chose. Mais même avant d'avoir entendu parler de ce prof de golf, Quentin, je m'étais dit que si El Blatch était venu faire un casse chez moi et que je l'apprenne plus tard, j'estimerais avoir une sacrée putain de chance d'être encore en vie. Imagine-le dans la chambre d'une dame, en train de fouiller sa boîte à bijoux. Et qu'elle tousse, ou se retourne en dormant. J'ai le frisson rien que de penser à un type pareil. Je le jure sur ma mère, c'est vrai. Il disait qu'il avait tué des gens aussi. Des gens qu'il avait fait chier. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Et je l'ai cru. Il avait vraiment l'air d'un mec capable de tuer. Putain de nerveux qu'il était. Comme un flingue avec une gâchette limée.
J'ai connu un type qui avait un Smith & Wesson Special Police avec une gâchette limée.
Ça ne servait à rien, sauf peut-être pour se vanter. La détente était si sensible que si ce type, il s'appelait Johnny Callahan, le posait sur une enceinte et allumait sa chaîne à fond, le coup partait. El Blatch était comme ça. Je peux pas mieux dire. Aucun doute pour moi qu'il en a refroidi quelques-uns. Alors un soir, juste pour dire quelque chose, j'ai dit « Qui t'a tué ?» Comme une blague, tu vois. Alors il a ri et il a dit « Il y a un type en tôle dans le Maine pour 2 meurtres que j'ai faits. Un gars et la femme du crétin qui est en tôle. Je nettoyais leur appart et le type s'est mis à me faire chier. Je sais plus s'il m'a jamais dit le nom de la femme », a ajouté Tommy. Peut-être que oui, mais Dufresne en Nouvelle-Angleterre, c'est comme Smith ou Jones dans le reste du pays. Il y a tellement de bouffeurs de grenouilles là-bas. Dufresne, Lavesque, Ouellette, Poulain, qui peut se souvenir de ça? Mais il m'a dit le nom du type. Il m'a dit qu'il s'appelait Glenn Quentin.
Et que c'était un grand type, un riche connard jouant au golf, un pro.
Elle avait cru que ce type pourrait avoir du liquide chez lui. Peut-être même $5,000.
C'était beaucoup de fric à l'époque, il m'a dit. Alors j'ai demandé, c'était quand?
Et il m'a dit, après la guerre. Juste après la guerre.
Alors il y est allé, il a cassé la baraque, ils se sont réveillés et le type lui a cherché des poux. C'est ce qu'a dit elle. Peut-être qu'il s'est juste mis à ronfler, je dirais.
En tout cas, elle a dit que Quentin était au pieu avec la femme d'un avocat connu. Et ils ont envoyé l'avocat à Shawshank.
Alors il a eu son grand rire. Sang du Christ, je n'ai jamais été si content que quand j'ai eu mon billet de sortie de cette turne.
Je pense que vous voyez pourquoi Andy est devenu un peu branque quand Tommy lui a raconté cette histoire et pourquoi il a tout de suite voulu voir le directeur. Elwood Blatch tirait 6 à 12 ans quand Tommy l'avait connu 4 ans plus tôt. Quand Andy l'a appris, en 1963, il était sur le point d'être libéré, ou déjà sorti. Alors Andy était en train de rôtir sur une broche à deux pointes. L'idée que Blatch était encore à portée de la main et la possibilité, très réelle, qu'il se soit évanoui dans la nature. L'histoire de Tommy n'était pas sans contradiction. Mais la vie n'est-elle pas faite de contradictions? Blatch lui avait dit que le type envoyé au trou était un avocat célèbre. Or, Andy était banquier. Mais les gens peu instruits confondent facilement ces deux professions. Et n'oubliez pas qu'il s'était passé 12 ans entre le moment où Blatch avait lu les articles parlant du procès et celui où il avait raconté l'histoire à Tommy. Il lui avait aussi dit qu'il avait trouvé plus de $1,000 dans un petit coffre installé dans la penderie de Quentin, alors que la police avait déclaré au procès qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. J'ai quelques idées là-dessus. Premièrement, si on prend le fric d'un type qui est mort, comment savoir qu'on a volé quoi que ce soit sans personne pour dire qu'il y avait quelque chose au départ? Deuxièmement, qui dit que Blatch ne mentait pas sur ce détail?
Il n'avait peut-être pas eu envie de dire qu'il avait tué deux personnes pour rien.
Troisièmement, il y avait peut-être des traces d'effraction et soit la police n'a rien vu, les flics sont souvent des abrutis, soit elle les a délibérément passés sous silence pour ne pas torpiller l'affaire du DA. Ce type se présentait aux élections, souvenez-vous, et il avait besoin d'une condamnation. Un cambriolage avec un meurtre non résolu ne lui aurait servi à rien. Détroit, je préfère la deuxième hypothèse. J'ai connu quelques Elwood Blatch depuis que je suis à Shawshank. Des dingues de la gâchette aux yeux fous. Ce genre de types veulent vous faire croire qu'ils ont raflé l'équivalent des joyaux de la couronne à chacune de leurs arnaques, même s'ils se sont fait prendre avec une Timex à 20 balles et $9 en poche. Un détail dans le récit de Tommy ne laissa plus l'ombre d'un doute à Andy. Blatch n'avait pas visé Quentin par hasard. Il avait dit que c'était un grand con, un riche, et il avait su qu'il était golfeur professionnel. Or, Andy et sa femme étaient allés dîner dans ce country club une ou deux fois par semaine pendant 2 ans. Et Andy y avait bu de grandes quantités d'alcool quand il avait découvert la liaison de sa femme. Il y avait une marina qui dépendait du country club. Et pendant quelques mois, en 1947, on avait engagé un mécanicien pompiste à mi-temps, qui correspondait à la description d'Elwood Blatch par Tommy. Un grand type, presque entièrement chauve, avec des yeux verts enfoncés dans leurs orbites. Un type qui vous regardait d'une façon désagréable, comme s'il vous jaugeait. « Il n'était pas resté longtemps », m'a dit Andy. Soit il était parti, soit Briggs, qui s'occupait de la marina, l'avait viré. Mais ce n'était pas un homme qu'on oubliait facilement. Trop impressionnant pour ça. Alors Andy est allé voir le directeur par un matin venteux et pluvieux, avec de grands nuages gris qui filaient dans le ciel au-dessus des murs gris, un jour où le dernier reste de neige avait fondu, laissant voir des plaques d'herbe morte dans les prés entourant la prison. Le directeur a un grand bureau dans le bâtiment administratif, et au fond de son bureau, une porte donne sur celui de son assistant. Celui-ci n'était pas là, mais il y avait un détenu classé, un type à moitié infirme dont j'ai oublié le nom. Tout le monde, moi compris, l'appelait Chester, comme le compère du shérif Dillon. Chester était censé arroser les plantes vertes, balayer et cirer le parquet. À mon avis, les plantes ont eu soif ce jour-là, et tout ce qu'il y a eu de ciré, c'est le trou de serrure de cette porte par l'oreille crasseuse de Chester. Il a entendu la grande porte s'ouvrir, se refermer, et la voix de Norton. « Bonjour, Dufresne. Que puis-je faire pour vous ?»«
Monsieur le directeur. »
Le vieux Chester nous a dit qu'il reconnaissait à peine la voix d'Andy.
« Monsieur le directeur, il y a quelque chose... Il m'est arrivé quelque chose qui est tellement... tellement... Je ne sais même pas par où commencer. »
« Eh bien, commencez donc par le commencement. » Norton a probablement pris son ton le plus mielleux, genre prenons tous le psaume 23 et lisons à l'unisson. « C'est habituellement ce qui marche le mieux. » C'est ce qu'a fait Andy. Il a d'abord rappelé à Norton les détails du crime pour lequel il avait été condamné. Puis il lui a répété précisément ce que Tommy Williams lui avait dit. Lui a aussi donné le nom de Tommy. Ce que vous pourrez trouver stupide vu ce qui s'est passé ensuite. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre, je vous le demande, s'il tenait à ce qu'on le croit. Quand il a eu terminé, Norton est resté sans rien dire. Je le vois d'ici, renversé en arrière dans son fauteuil, un portrait du gouverneur Reed accroché au-dessus de lui, les mains jointes, une moue sur ses lèvres dépathiques, les plissements de son front escaladant son crâne, son épingle commémorative luisant d'un éclat rassurant. « Oui, » a-t-il fini par dire. « C'est l'histoire la plus fantastique que j'ai jamais entendue. Mais je vais vous dire ce qui m'étonne le plus, Dufresne. »«
Qu'est-ce que c'est, monsieur ?»«
Que vous vous y soyez laissé prendre. »«
Monsieur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »
Et Chester a dit que Dufresne... Lui qui, 13 ans plus tôt, avait intimidé Byron Hadley sur le toit de la fabrique, en était presque abafouillé. « Allons donc, » a continué Norton. « Il me semble évident que vous impressionnez beaucoup ce jeune Williams, qu'il est même fasciné, pourrait-on dire. Il connaît le récit de vos malheurs et il lui paraît tout naturel de vouloir vous... réconforter, dirons-nous. Tout naturel. » Ce jeune homme ne brille pas par son intelligence. Pas étonnant qu'il n'ait pas compris que cela vous mettrait dans tous vos états. Ainsi, voilà ce que je vous suggère.
Vous croyez que je n'ai pas pensé à ça? Mais je n'ai jamais parlé à Tommy du type qui travaillait à la marina,
s'est écrié Andy.
Je n'en ai jamais parlé à personne. Je n'y ai même jamais pensé. Et Tommy a décrit son compagnon de cellule. C'est lui.
Allons, allons. Vous vous laissez aller à quelque sélectivité dans vos perceptions, a dit Norton avec un petit rire. Des expressions de ce style, sélectivité dans la perception, sont apprises par cœur par ceux qui s'occupent de pénologie et d'administration pénitentiaire, et ils les placent chaque fois que c'est possible.
Ce n'est pas ça du tout, monsieur.
C'est votre point de vue, pas le mien. Et souvenez-vous, il n'y a que vous pour dire qu'un individu pareil a travaillé au country club de Falmouth Hills à cette époque.
Non, monsieur,
l'a interrompu Andy.
Non, ce n'est pas vrai, parce que...
En tout cas, Norton a élevé la voix, regardons simplement les choses par l'autre bout de la lorgnette, voulez-vous? Supposons, sans plus, qu'il ait vraiment existé un personnage nommé Elwood Blotch.
Blotch, a dit Andy, tendu.
Blatch, mais bien sûr. Et disons qu'il était effectivement dans la cellule de Thomas Williams à Rhode Island. Il y a d'excellentes chances pour qu'il ait été libéré. Excellente. Voyons, nous ne savons même pas le temps qu'il a purgé avant d'échouer avec Williams, n'est-ce pas? Seulement qu'il devait faire de 6 à 12 ans.
Non, nous ne savons pas ce qu'il avait déjà fait, mais Tommy dit que c'était un mauvais acteur, un pantin. Je crois qu'il y a de bonnes chances qu'il y soit encore. Même s'il est sorti, la prison aura enregistré sa dernière adresse connue, le nom de ses parents.
Ce qui ne mènerait qu'à un cul-de-sac, presque certainement. Andy n'a rien dit pendant quelques instants, puis a éclaté.
Eh bien, il reste quand même une chance, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Aussi, Dufresne, supposons un instant que Blatch existe. Et qu'il est à l'abri dans sa niche au pénitencier de Rhode Island. Et qu'est-ce qu'il va dire si on lui apporte ce joli merdier sur un plateau? Va-t-il tomber à genoux, lever les yeux au ciel et dire « C'est moi, c'est moi! Je vous en prie que la prison à vie se rajoute à ma peine !»«
Comment pouvez-vous être aussi obtus ?» a dit Andy.
si bas que Chester a eu du mal à l'entendre. Mais aucun à entendre le directeur.
« Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ?»«
Obtus !»
a crié Andy.
« Vous le faites exprès ?»«
Dufresne, vous avez pris 5 minutes de mon temps. Non, 7. Et mon horaire est très chargé. Alors je pense que nous allons clore ce petit entretien et... »«
Le Country Club aura gardé toutes les fiches de présence, vous ne voyez pas ?»
s'est écrié Andy.
« Ils auront les formulaires fiscaux, les bordereaux de la caisse de chômage, tous avec son nom dessus !» Il y aura encore des employés de l'époque, peut-être même Briggs. Cela fait 15 ans, pas l'éternité. Ils se souviendront de lui, ils se souviendront de Blatch. Si j'ai Tommy pour témoigner de ce que lui a raconté Blatch, et Briggs pour témoigner que Blatch était bien là, qu'il travaillait effectivement au Country Club, je peux obtenir un nouveau procès. Je peux...
Gardien, gardien, emmenez cet homme.
Mais qu'est-ce qui vous prend ?
Chester m'a dit qu'il en était presque à hurler.
C'est ma vie, ma chance de sortir, vous voyez pas ? Et vous ne feriez même pas un simple appel à longue distance pour vérifier l'histoire de Tommy ? Écoutez, je paierai pour le téléphone, je paierai pour...
Chester a entendu les matons le frapper et l'entraîner à l'extérieur.
À l'isolement,
a dit sèchement le directeur Norton. Il tripotait probablement son épingle de cravate.
Au pain et à l'eau.
Ils ont emmené Andy, désormais hors de lui. Qu'on entendait encore hurler à travers la porte fermée.
« C'est ma vie ! C'est ma vie ! Vous comprenez pas que c'est ma vie ?»
20 jours de mitard pour Andy, au pain et au chien. C'était sa seconde période d'isolement, et sa prise de bec avec Norton lui a valu sa première mauvaise note depuis qu'il avait rejoint notre heureuse petite famille. Je vais vous parler un peu du mitard de Shawshank pendant que nous y sommes. C'est une sorte de retour à l'époque héroïque des pionniers, vers le milieu du XVIIIe siècle. En ce temps-là, personne ne perdait son temps à des fariboles comme pénologie, réhabilitation et sélectivité de la perception. En ce temps-là, tout était blanc ou noir, point. On était coupable ou on était innocent. Quand on était coupable, on vous pendait au gibet ou on vous mettait en prison. Mais si vous étiez mis en prison, cela ne signifie pas qu'on vous internait dans une institution. Non. Il fallait creuser votre propre geôle avec une pelle fournie par la province du Maine. Vous creusiez aussi large et profond que possible entre le lever et le coucher du soleil. Ensuite, on vous donnait 2 couvertures en peau, un seau, et vous alliez dans le trou. Le geôlier mettait une grille par-dessus, vous lançait une poignée de grains, peut-être un bout de viande plein de vers 1 ou 2 fois par semaine, peut-être aussi une louche de soupe d'orge le dimanche soir. Il fallait pisser dans le seau, recevoir un peu d'eau dans le même seau quand le geôlier repassait, à 6 heures du matin. Quand il pleuvait, le seau servait à écoper votre cellule, à moins, bien sûr, que vous n'ayez eu envie de vous noyer comme un rat dans un tonneau. Personne ne durait longtemps au trou, comme on disait. 30 mois, c'était déjà exceptionnel. Et pour ce que j'en sais, la peine la plus longue dont un détenu soit sorti vivant a été purgée par un soi-disant « Durham Boy », un psychopathe de 14 ans qui avait castré un camarade d'école avec un bout de fer rouillé. Il a fait 7 ans, mais c'est qu'il était jeune et solide à l'arrivée. Il faut vous souvenir que pour un crime plus sérieux qu'un simple larcin, un blasphème ou l'oubli de mettre un mouchoir dans sa poche le jour du sabbat, vous étiez pendu. Pour des crimes insignifiants comme ceux que je viens de décrire et d'autres semblables, vous faisiez vos 3, 6 ou 9 mois au trou pour en ressortir blanc comme le ventre d'un poisson, à moitié aveugle, les dents probablement branlantes et déchaussées à cause du scorbut, les pieds infestés de champignons. Bonne vieille province du Maine. Yo-ho-ho et une bouteille de rhum. Le quartier d'isolement de Shawshank était loin d'être aussi féroce, je suppose. L'expérience humaine connaît 3 degrés principaux, à mon avis. Le bon, le mauvais et l'horrible. Plus on descend dans les ténèbres de l'horreur, plus on a du mal à faire des nuances. Pour atteindre le mitard, on descendait 23 marches jusqu'à un sous-sol où le seul bruit était celui de l'eau qui gouttait. Pour toute lumière, une rangée d'ampoules de 60 watts. Les cellules étaient en forme de tonneau, comme ces coffres muraux que les riches cachent parfois derrière un tableau. La porte était ronde, comme celle de ces coffres. Et pleine, sans barreaux. L'air venait d'en haut, mais aucune autre lumière que l'ampoule de 60 watts laquelle était éteinte par les gardes à 8 heures précises, 1 heure avant le reste de la prison. L'ampoule n'était pas grillagée, rien de ce genre. Si vous préfériez rester dans le noir, tant mieux pour vous. Peu s'y risquait. Mais après 8 heures, bien sûr, personne n'avait le choix. Il y avait une couchette scellée dans le mur et un seau. Pas de toilette. Vous aviez 3 façons de passer le temps. Rester assis, chier ou dormir. Un sacré choix. 20 jours pouvaient vous paraître durer 1 an. 30 jours, 2 ans. Et 40, c'était comme 10 ans. Parfois, on entendait des rats dans la ventilation. Dans une telle situation, les nuances de l'horreur ont tendance à s'effacer.